Le Monde demain, septembre-octobre 2023. La Terre, votre héritage. Écrit par M. Richard Ames et interprété par Jake Boyer. L'article commence. Jouer de la harpe, se prélasser sur des nuages célestes, se reposer béatement dans une retraite permanente. C'est ainsi que des millions de personnes s'attendent à passer l'éternité après leur mort. Cela peut sembler paisible, mais est-ce biblique ? Jésus-Christ a promis un avenir bien différent aux chrétiens. Dans le célèbre sermon sur la montagne, il a proclamé « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Hériterez-vous donc la terre ? Voulez-vous recevoir la récompense promise par le Sauveur ? Et que signifie vraiment hériter la terre ? De la confusion au sujet de l'avenir. Selon un sondage effectué en mai dernier, 52% des gens dans le monde croient au paradis, contre seulement 31% des Français et 22% des Belges. Quant à l'enfer, 41% des gens dans le monde y croient, contre 25% des Français et 16% des Belges. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que la plupart de ceux qui croient au ciel et à l'enfer ne comprennent ni ces concepts, ni ce que Jésus a promis à ceux qui lui sont fidèles. Le plan de Dieu consiste-t-il simplement à monter au ciel après votre mort ? Ou serez-vous ressuscité pour une récompense en lien avec la terre ? Jésus n'en faisait pas mystère. Voici ce qu'il déclara. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, les humbles, car ils hériteront la terre. » Si vous lisez attentivement ce passage, vous verrez que Jésus a promis à ses fidèles disciples le royaume des cieux et non un royaume dans les cieux. Considérez l'exemple suivant. La monarchie britannique s'appelle la maison de Windsor. Cependant, elle ne se trouve pas uniquement dans la ville de Windsor, près de Londres. Elle règne sur plusieurs nations partout dans le monde. De la même manière, le royaume des cieux s'étend depuis les cieux, mais exerce son autorité sur la terre. Comme nous allons le voir, lorsque Jésus-Christ reviendra, il fera de Jérusalem sur la terre la capitale de son royaume. À son retour, ceux qui lui auront fidèlement obéi recevront en héritage un poste de dirigeant afin de servir dans ce royaume sous son autorité. Jésus leur dira alors « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Un royaume ou une calamité ? Jésus nous a appris à prier « Que ton règne vienne ». Il ne nous a pas dit de prier « Emmène-nous dans le ciel ». Pourquoi notre Sauveur nous enseigna-t-il à prier pour que le royaume de Dieu soit établi sur la terre ? Parce que notre monde souffre des péchés de l'humanité. Songez aux dizaines de millions de personnes qui sont mortes au siècle dernier à la suite des guerres ou des génocides. Alors que j'écris ces lignes, plus d'une vingtaine de guerres font rage entre les nations ou des peuples à travers le monde. Suite à l'apparition des armes nucléaires, nous ne pouvons plus prendre pour acquis qu'une guerre régionale restera confinée dans un secteur géographique restreint. Avec les missiles téléguidés, les communications spatiales et les bombes intelligentes, ainsi que les alliances mondiales qui contrôlent le mouvement des armes, deux nations européennes en guerre peuvent mettre en danger la planète entière, comme le montre l'inquiétude mondiale suscitée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cela signifie-t-il que notre monde soit déjà entré dans la grande tribulation annoncée par Jésus-Christ ? Les quatre cavaliers de l'Apocalypse ont-ils commencé leur chevauchée prophétique ? Non, pas encore, mais il s'agit de la direction inquiétante vers laquelle nous nous dirigeons. Jésus a prévenu que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ceux qui craignent l'escalade des conflits régionaux en cours ne se trompent pas. Les tendances militaires actuelles, si elles ne sont pas contrôlées, conduiront notre planète à l'anéantissement total. Mais Jésus-Christ interviendra pour mettre fin aux guerres et à la nature belliqueuse de l'humanité avant que nous ne nous détruisions nous-mêmes. Et contrairement à l'idée d'une retraite éternelle dans un paradis idyllique, les véritables disciples auront un travail à accomplir. Si nous sommes fidèles à Dieu jusqu'à la fin, Jésus-Christ nous fera roi et sacrificateur à notre Dieu et nous régnerons sur la terre dans son royaume à venir. Sous la direction juste du Christ, ses fidèles disciples régneront sous l'autorité de leur Sauveur, enseignant au monde le véritable mode de vie. Toutes les nations de la terre viendront à Jérusalem pour apprendre le chemin de la paix. La Bible nous dit que la terre entière apprendra à observer les mêmes fêtes bibliques que celles observées par Jésus et les apôtres. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Oui, toutes les nations de la terre adoreront le roi. Quand cela aura-t-il lieu? Quand les chrétiens fidèles hériteront-ils le royaume? La grande résurrection de ceux qui auront obéi à Dieu aura lieu au retour du Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Se préparer pour le royaume de Dieu. De nos jours, les vrais chrétiens se préparent pour leur poste de service à venir. Jésus enseigna que le plus grand objectif d'un chrétien est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cette recherche conduira à une position de service dans le royaume de Dieu lorsque les chrétiens ressuscités aideront leur Sauveur à apporter la justice aux habitants de notre planète. Comme Jésus l'a dit, les humbles hériteront la terre. Il régnera sur toutes les nations en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Les chrétiens fidèles l'aideront à régner sur les nations. Mes amis, Dieu appelle de nombreuses personnes à le servir et à servir son œuvre, à se préparer à servir dans ce royaume à venir en tant que roi et sacrificateur. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ces 1000 ans sont souvent appelés le millénium, ces 10 siècles inaugurant le règne éternel du Christ. Tout royaume possède un dirigeant, un territoire, des sujets et des lois. Le souverain du royaume de Dieu sur terre sera Jésus-Christ. Il sera le roi des rois et les véritables chrétiens ressuscités l'assisteront en tant que roi et sacrificateur. Sur quel territoire ce royaume sera-t-il établi? La terre, d'où Jésus-Christ régnera depuis Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. En fait, la ville portera un autre nom. À cette époque-là, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Lorsque le Christ reviendra pour établir le royaume de Dieu, son territoire sera la terre. Qui seront les sujets de ce royaume? Toutes les nations de la planète. Nous lisons que l'Éternel sera roi de toute la terre. Sous la loi de Dieu. Les sujets vivants sous l'autorité du Christ seront des êtres humains physiques, des personnes vivant sur la terre pendant le millénium, et ils seront gouvernés par la loi de Dieu. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Il est choquant de constater que tant de personnes se disant chrétiennes rejettent la vérité de la loi divine, cette loi qui apportera la paix à notre monde sous la direction du Christ. La loi divine est bien supérieure aux lois humaines qui sont souvent contradictoires et injustes. Jésus nous enseigna à observer les 10 commandements. Souvenez-vous de son exhortation. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Puis il énonça quelques-uns des 10 commandements. Il amplifia également ses commandements dans le sermon sur la montagne, les rendant plus contraignants, en expliquant par exemple que regarder une personne avec convoitise revenait à commettre le péché de l'adultère. Cependant, il ne s'agira pas d'un règne dur et oppressif. Celui-ci apportera la paix et le bonheur à tous les habitants de la terre lorsqu'ils obéiront à leur roi. Nous lisons que le Christ sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des boyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. C'est le message de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pourtant, combien de gens se disant chrétiens le comprennent vraiment? Des millions de personnes croient qu'elles iront au paradis ou en enfer lorsqu'elles mourront. Mais est-ce vrai? L'âme peut-elle mourir? L'apôtre Paul fit une déclaration très célèbre, mais souvent incomprise. Il écrivit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notez que la Bible ne dit pas « le salaire du péché, c'est la vie immortelle dans le feu de l'enfer ». La conséquence du péché n'est pas la vie immortelle, mais la mort, l'absence de vie. Si les êtres humains possédaient déjà une âme immortelle, alors ils n'auraient plus besoin de recevoir le don de la vie éternelle. Oui, une âme peut mourir. L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le mot hébreu traduit par « âme » est « nefesh », qui signifie « vie physique » ou « naturelle ». C'est le même mot qui a été traduit par « animaux » dans Genèse 1, verset 21. Jésus enseigna la même chose dans le Nouveau Testament, avertissant ses disciples. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Le mot « géhenne » décrivait un dépotoir à l'extérieur de Jérusalem où des feux y brûlaient continuellement. Les déchets y étaient détruits, réduits en cendres. Ils ne brûlaient pas éternellement. Pour en savoir plus sur ce sujet essentiel, consultez notre site internet mondemain.org afin de lire notre article « Irez-vous en enfer ?» paru dans la revue de janvier-février 2023. Bien entendu, la Bible enseigne qu'il existe un esprit humain. Il s'agit de l'esprit de l'homme mentionné dans 1 Corinthiens 2, verset 11. Mais il ne s'agit pas d'une âme immortelle. De nombreux passages bibliques montrent que les êtres humains ne possèdent pas une âme immortelle. Comme nous venons de le lire, Dieu inspira le prophète Ézéchiel à enseigner que l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. C'est pourquoi la résurrection des morts est si importante. La Bible révèle qu'il existe trois résurrections générales. La première est surtout décrite dans 1 Corinthiens chapitre 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les vrais disciples actuellement en vie recevront leur héritage au cours de cette résurrection. Et qu'en est-il de ceux qui sont morts? Sont-ils éveillés, dans un état désincarné, attendant leur héritage? Et qu'en est-il des milliards de gens qui sont morts au cours des siècles, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui? Sont-ils actuellement des esprits désincarnés, attendant de connaître leur sort éternel? Ou bien les non-chrétiens qui sont morts brûlent-ils déjà dans les tourments de l'enfer? La vérité est que ceux qui sont morts sont tout simplement morts. La Bible explique que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils sont comme endormis. Leur prochain instant de conscience aura lieu lorsqu'ils seront ressuscités. Pour en savoir plus sur cette résurrection à la vie éternelle, lisez l'article « 4 vérités cachées » de Jean 3,16, paru dans notre revue de juillet-août 2023. Et les autres morts? L'apôtre Jean décrivit les deux premières résurrections générales. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Qui sont ces autres morts? Il s'agit de ceux qui sont morts au cours des 6000 ans accordés à l'humanité et qui ressusciteront à la vie environ 1000 ans après le retour du Christ. Le reste des morts, ces milliards d'êtres humains qui sont morts sans que leur esprit ait été ouvert au véritable christianisme, sera ressuscité après le millénium au tout début d'une époque connue sous le nom de jugement du grand trône blanc. Ce sera la deuxième résurrection. Ils reviendront à la vie physique et, pour la première fois de leur existence, ils auront l'occasion d'accepter les enseignements de Jésus-Christ et d'apprendre à marcher selon son mode de vie. Ce sont les prémices ressuscitées au cours de la première résurrection qui les enseigneront sous la direction de Jésus-Christ. À ce moment-là, ils auront déjà vécu et régné avec le Christ pendant 1000 ans, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 20, versets 4 et 5. Voici comment les Écritures décrivent cette résurrection à la vie physique. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Le mot grec traduit par livre est biblion. La bonne nouvelle est que pour la première fois, ces livres, c'est-à-dire les livres de la Bible, les saintes écritures, seront ouverts à la compréhension de toute l'humanité. Le livre de vie sera ouvert à ceux qui seront ressuscités pour le jugement du grand trône blanc, comme l'explique Apocalypse 20, verset 12. Pour ces gens, ce sera leur première occasion d'apprendre la vérité. Il ne s'agit pas d'une seconde chance, comme certains l'affirment. Tous les êtres humains devront répondre de leurs actes et de leurs pensées. Mais pour beaucoup de gens, ce sera la première fois qu'ils prendront conscience de leurs péchés. Ils auront l'occasion de se repentir de ces péchés et d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Tous les morts seront ressuscités au cours d'une des trois résurrections. Si vous appartenez véritablement à Jésus-Christ à l'époque actuelle, vous ferez partie de la première résurrection. Elle est qualifiée de meilleure résurrection, car ceux qui en feront partie recevront l'immortalité et deviendront l'épouse du Christ. Dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges nous avertit de nous tenir prêts pour le retour du Christ et les noces de l'agneau, lorsque les chrétiens fidèles seront unis à lui pour l'éternité. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Tous ceux qui auront été fidèles à Jésus-Christ avant son retour feront partie de la première résurrection lorsqu'il viendra établir le royaume de Dieu. Ils l'assisteront dans son règne pendant le millénium, l'époque où tous ceux qui auront survécu aux événements de la fin des temps entreront dans cette nouvelle ère et connaîtront la vie sous la direction bienveillante de Dieu. Pendant le jugement du grand trône blanc, le reste de l'humanité, ceux qui seront morts avant le retour du Christ sans avoir été appelés, sera ressuscité à la vie physique. Ces gens auront pour la première fois l'opportunité d'entendre le véritable évangile et de vivre selon les lois divines. Leur esprit sera ouvert à la compréhension de la Bible et à l'impressionnante réalité de la vérité de Dieu. Finalement, lorsque tous ceux qui sont nés au fil des siècles auront reçu une véritable occasion de salut et que leur esprit aura été ouvert à la compréhension, ceux qui sont morts après avoir rejeté l'occasion de vivre selon la voie divine, volontairement et en toute connaissance de cause, seront ressuscités et jetés dans l'étang de feu. Les vivants qui rejetteront obstinément la voie divine les accompagneront. Ils seront brûlés une fois pour toutes et ils cesseront d'exister. Il s'agit de la troisième résurrection, dont l'issue est la seconde mort pour laquelle il n'y a plus de résurrection possible. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Après le millénium, le jugement du grand trône blanc et l'étang de feu, Dieu fera franchir au ciel et à la terre une nouvelle étape glorieuse, pour laquelle tout ce qui a précédé était une préparation. Voici ce que nous lisons au sujet de son plan grandiose. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. À cette époque, tous les êtres humains auront eu l'occasion d'entendre l'évangile de Jésus-Christ et d'y répondre. Hériter la terre ne sera que la première étape, comme nous le lisons. Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Oui, l'époque viendra où les êtres humains qui auront accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et qui auront appris à vivre selon sa voie, hériteront non seulement la terre, mais aussi toute chose, c'est-à-dire l'univers entier. D'ici là, les prémices auront un travail à effectuer, comme nous l'avons vu dans cet article. À la première résurrection, ceux qui feront partie de ces prémices s'élèveront au-dessus de la planète Terre lorsque le Christ les emmènera aux grandes noces devant le trône de Dieu dans le ciel. Mais contrairement à la croyance populaire de tant de chrétiens, les saints ressuscités ne resteront pas au ciel, transis par une vision béatifique. Après que Dieu aura versé les sept derniers fléaux sur notre planète, ils reviendront avec Jésus-Christ sur des chevaux blancs pour conquérir les nations et établir son royaume sur la terre. Chers lecteurs, votre Père Céleste vous aime et il veut que vous fassiez partie de sa famille, que vous receviez le salut, que vous héritiez la terre et toutes choses. Répondrez-vous à son appel ?